Donc, les deux trucs qu'on regarde le plus quand on analyse si une acquisition est intéressante pour nous ou non, c'est un, est-ce que le software est critique au fonctionnement de l'entreprise qu'elle sert? Donc, si jamais demain matin, je me lève et que le software ne fonctionne pas, est-ce que ma business est affectée? Si la réponse est oui, on est très intéressé. Si la réponse est non, on n'est pas si intéressé que ça. Et le deuxième critère pour nous, c'est quel pourcentage des clients de cette firme-là renouvellent leur contrat à chaque année?
Mon nom est Antoine Gagné et je vous souhaite la bienvenue au 176e épisode du podcast Hypercroissance. Avant d'écouter l'épisode d'aujourd'hui, je vous invite à vous abonner sur Spotify, Apple Podcasts ou sur votre plateforme de balado préférée afin d'être notifié des nouveaux épisodes qui arrivent tous les lundis et jeudis matin. Et en plus de Hypercroissance, sachez que l'équipe de J7 Media qui est derrière ce podcast produit également deux autres balados. Social Selling, un podcast 100% orienté publicité Facebook, et Commerce Élite, un podcast 100% orienté commerce électronique. Les liens sont d'ailleurs dans les notes de l'épisode si vous désirez y jeter un petit coup d'œil. Également, si vous cherchez un partenaire de croissance pour vos campagnes numériques pour terminer l'année en force, rendez-vous au www.j7media.com/hypercroissance. Donc, je le répète, J, le chiffre 7, media au singulier.com/hypercroissance, afin d'obtenir gratuitement une analyse de vos campagnes actuelles ainsi qu'un plan de match personnalisé pour votre entreprise. Vous pouvez également venir discuter directement avec moi sur LinkedIn si c'est plus facile. La croissance organique, c'est bien, mais est-ce qu'on pourrait dire que la croissance par acquisition, c'est mieux? Un précède souvent l'autre, vous me direz. Par contre, force est d'admettre que la plupart des entreprises en hypercroissance ont souvent passé par l'achat d'organisations afin d'atteindre un nouveau pilier d'accélération. Et quand on parle d'achat de société, disons que mon invité du jour pourra vous éclairer sur le sujet. Joseph Coubier, vice-président des fusions-acquisitions chez Valsoft, peut se targuer d'avoir acquis plus de 50 organisations au cours des 7 dernières années. Valsoft, qui, depuis 2015, acquiert des entreprises technologiques, figure au 94e rang des organisations plus forte croissance au Canada. Et Joe va nous expliquer aujourd'hui leur modus operandi afin d'acquérir des sociétés aussi rapidement. Sans plus attendre, ma discussion avec Joseph Coubier. Joe Coubier, vous êtes vice-président et responsable des fusions et acquisitions chez Valsoft depuis près de 5 ans maintenant. L'entreprise qui fut fondée en 2015 en ayant pour mission d'acquérir des entreprises technologiques pour par la suite les faire croître encore plus rapidement, peut se targuer d'avoir complété une 50aine d'acquisitions depuis son lancement. Joseph Coubier, merci beaucoup d'être sur le podcast Hypercroissance aujourd'hui.
Merci à vous.
Joseph, avant de rentrer dans la genèse de l'organisation, est-ce possible pour toi de nous décrire précisément, qu'est-ce que Valsoft?
Oui, sans problème. Valsoft est une entreprise montréalaise qui a été créée il y a à peu près 8 ans. Et le but de l'entreprise, comme tu l'as dit un peu plus tôt, c'est d'acquérir des compagnies de software partout à travers le monde et de garder, de faire croître ces compagnies pour toujours. On a commencé avec une petite acquisition, une deuxième, une troisième, puis là on est rendu au-dessus de 50 acquisitions. Avec un chiffre d'affaires qui avoisine les 300 millions de dollars. Et notre but est de continuer de faire croître l'organisation à travers des acquisitions pour les décennies à venir.
Bon, c'est pas des petits chiffres que tu as dit, c'est assez exceptionnel. Donc, on va essayer de décortiquer ça ensemble aujourd'hui parce que 300 millions de chiffres d'affaires, 50 acquisitions, les gens qui nous écoutent aujourd'hui doivent se dire comment tout ça s'est mis en place. Donc, on va essayer d'analyser tout ça et j'aimerais que tu me dises, là, Joseph, une cinquantaine d'entreprises qui ont été acquises dans le domaine technologique en 7 ans, des entreprises que je suis allé analyser qui, d'ailleurs, font quand même un certain volume d'affaires. On parle d'organisations qui vont varier entre 3 et 50 millions de revenus annuels. J'aimerais savoir, là, c'est assez exceptionnel, impressionnant, tout ça. Qu'est-ce qui a poussé les fondateurs à la base de se dire, tu sais quoi, on va aller faire le tour de toutes les entreprises technologiques et on va essayer de les amener dans notre portfolio? Était quoi la raison derrière tout ça?
C'est une question. Mes partenaires, Sam et Steph, sont deux entrepreneurs qui, la seconde où ils sont nés, c'était des entrepreneurs. Je les connaissais pas quand ils avaient un an, là, mais je suis sûr qu'il y avait du trading, de sus, des trucs de bébé qui se passaient entre la frère et leur sœur. Fait que, en sortant de l'université, ils ont fondé plusieurs entreprises, ils ont fini par en vendre quelques-unes. Et ils se sont, à l'âge de 29 ans, ils se sont retrouvés avec beaucoup, beaucoup de capital et pas grand-chose à faire. Donc, ils ont fait ce que n'importe quel entrepreneur avec ce genre de capital ferait, c'est-à-dire c'est fini pour moi, je vais passer du temps avec ma famille, je vais prendre le temps qu'il faut, je vais voyager partout au monde, tout ça. Puis on fait ça pendant 2-3 semaines et ils ont dit, c'est la pire chose au monde. On a besoin de trouver quelque chose à faire. Fait qu'ils ont pris le temps d'analyser un peu la situation, de voir ce qu'il aurait été à faire en termes d'investissement. Ils ont fait un petit peu de real estate, ils ont fait un petit peu de, ils sont même, rentrés dans l'univers du fitness, ce genre de choses, hein. Puis ils avaient deux critères principaux avant de rentrer dans une nouvelle aventure. Le premier, c'est que ça devait être en technologie, parce que c'est ça leur background. Et le deuxième, c'est que ça devait être des entreprises où c'était pas nécessaire de vendre l'entreprise pour générer, du cash. Donc, ce qu'ils ne voulaient pas faire, eux, c'est acheter des entreprises et la seule porte de sortie ou la seule façon de ravoir son argent, c'était de vendre cette entreprise-là. Ils ont étudié de fond en comble l'industrie du software. Et dans ce temps-là, dans les années 2012, 2013, 2014, c'était quand même pas ce que c'était maintenant. C'était un créneau de marché beaucoup plus petit. Et ils se sont dit, il n'y a pas une plus belle façon d'investir le fruit de notre labeur pour des décennies à venir que l'industrie du software. C'est une industrie qui permet de déployer du capital puis qui n'a pas besoin d'être vendu pour générer des profits d'organisation.
Je comprends.
C'est un petit peu comme ça qu'on a commencé à faire nos acquisitions.
Et ce qui est paradoxal, Joe, et j'aimerais t'entendre là-dessus ici, c'est que souvent l'industrie technologique, spécifiquement dans le domaine des logiciels, c'est des organisations qui ne sont pas tellement profitables pendant leur survie, pendant leur évolution, mais risquent de faire quand même des sorties intéressantes de plusieurs dizaines, des fois des centaines de millions de dollars. Donc, c'est quand même une industrie qui, paradoxalement, n'est pas orientée sur faire de la profitabilité année après année. Les fondateurs ici ont voulu changer un petit peu le paradigme. On voulait changer comment que les choses étaient faites.
Je pense que même si on aurait voulu changer le paradigme, on n'est pas assez bon ni assez gros pour changer quoi que ce soit dans cette industrie, ni assez gros. C'est ce que tu soulèves comme point, c'est un excellent point. C'est que nous, fondamentalement, on croit que une entreprise de software a un choix entre la croissance et la profitabilité. Et beaucoup d'entreprises de software, ou les bonnes entreprises de software, ont ce choix-là. Et beaucoup d'entre elles choisissent l'un ou l'autre. Nous, ce qu'on a essayé de faire, c'est amener les deux sur la table. Right? Et je te dirais que l'univers sur lequel on se concentre pour nos acquisitions, c'est un univers très, très minime dans le software. Si tu prends le software comme étant 100%, ce n'est pas toutes les compagnies de software qui nous intéressent, ce sont celles qui sont très niches dans ce qu'elles font et qui sont très, très particulières à l'industrie qu'elles servent. Et en ayant ce critère en tête, évidemment, ça réduit notre TAM et ça réduit énormément notre compétition dans le secteur. Il fait qu'on peut se concentrer à peaufiner ces entreprises et les améliorer au fil du temps. Sans se citer nécessairement d'un énorme acquéreur ou d'un énorme joueur en private equity qui viendrait un peu chambouder les cartes.
Intéressant. Et pour les gens qui nous écoutent peut-être aujourd'hui, TAM, pour essayer de mettre ça clair, c'est Total Addressable Market. Donc, en gros, le marché cible, le marché total qu'on est capable d'aller chercher. Donc, bon, c'est assez intéressant ce que tu mentionnes, Joe, concernant les entreprises un petit peu nichées. Et parlons-en parce que peut-être que des gens qui nous écoutent aujourd'hui qui sont en technologie et qui ont des entreprises nichées. Parlons un petit peu de ces critères d'acquisition-là, parce que après cette question-là, je vais vouloir qu'on explique à notre audience aujourd'hui votre processus pour aller prospecter et discuter avec ces organisations-là, un processus totalement exceptionnel que tu m'as mentionné. Mais avant de rentrer là-dedans, peux-tu nous dire un petit peu ces différents critères-là des entreprises que vous recherchez?
Parfait. Je vais commencer par te donner un exemple que je donne à peu près tout le monde qui me pose cette question-là. C'est Salesforce est une compagnie de software absolument exceptionnelle. Moi, j'utilise Salesforce. Toi, tu peux utiliser Salesforce. 95% des gens qui nous écoutent présentement peuvent utiliser Salesforce. Couchetard utilise Salesforce. Jean, tu utilises Salesforce. Ce n'est pas une compagnie qui nous intéresse à nous pour les acquisitions parce qu'elle est très, très horizontale. Elle peut être dans plusieurs verticales différentes. Comme j'ai nommé, il y a des dépanneurs qui peuvent l'utiliser. Il y a des compagnies de M&A comme les nôtres qui peuvent l'utiliser. Il y a des gens qui font des podcasts qui peuvent l'utiliser. Ce que nous, on recherche, ce sont des compagnies très, très niches dans ce qu'elles font. Donc, si jamais il y avait un Salesforce qui était très, très spécialisé pour les dépanneurs, ça, on serait intéressé. Parce que, par sa concentration dans cette verticale-là, ce software-là serait fondamentalement plus critique au fonctionnement de l'entreprise qu'elle sert. Right? Donc, les deux trucs qu'on regarde le plus quand on analyse si une acquisition est intéressante pour nous ou non, c'est un, est-ce que le software est critique au fonctionnement de l'entreprise qu'elle sert? Donc, si jamais demain matin, je me lève et que le software ne fonctionne pas, est-ce que ma business est affectée? Si la réponse est oui, on est très intéressé. Si la réponse est non, on n'est pas si intéressé que ça. Et le deuxième critère pour nous, c'est quel pourcentage des clients de cette firme-là renouvellent leur contrat à chaque année. Right? Donc, si jamais cette compagnie-là perd 20% de ses clients par année, ça veut dire que pour s'assurer de rester au même niveau année après année, il faut qu'ils signent 20 ou même 25% de nouveaux clients. Ça, c'est beaucoup, beaucoup de travail pour nous. Nous, ce qu'on recherche, ce sont des compagnies qui ne perdent pas beaucoup de clients. La croissance, c'est pas si important pour nous. On va travailler ensemble pour voir comment on va le faire. Mais on veut s'assurer que les clients demeurent des clients pour le très, très long terme.
Donc, c'est intéressant ça. On cherche et c'est même assez fascinant parce qu'on dirait que c'est quasiment pas le contraire, mais une vision distincte qu'on voit très souvent dans le milieu technologique. Ouais. Pas que pardonnez-moi l'anglicisme, là, le churn rate n'est pas important pour des investisseurs ou pour des entreprises, mais souvent on parle de croissance à tout prix, de travailler avec des EBITDA négatifs pour aller chercher cette part de marché-là plus que n'importe quoi. Ici, on dirait que c'est un petit peu différent. On cherche des entreprises plus stables qui peuvent avoir bien entendu une belle croissance, mais qui sont capables de donner un petit peu plus de certitude, j'imagine, aux investisseurs.
Exactement. C'est très habile à pas dire que c'est le contraire, parce que si tu me trouves une compagnie qui croît 500% par année puis qui perd pas de clients, c'est sûr que je suis intéressé. Right? Mais c'est pas exactement le contraire, mais c'est définitivement différent. Right? Et l'anglicisme churn, c'est vraiment la métrique qu'on regarde le plus souvent. Puis cette stabilité, c'est ce qui nous permet de focuser sur la croissance des entreprises. Donc, on n'est pas inquiet de perdre 40% de nos clients en une année, on passe beaucoup de temps à c'est quoi la prochaine acquisition qu'on fait et comment on croit ces compagnies-là. Right? Mais si tu passes 50% de ton temps à essayer de garder tes clients, ben c'est un peu plus difficile.
Est-ce que selon toi, c'est une des plus grandes problématiques qu'on voit présentement dans le domaine SaaS des logiciels? Est-ce que la non-récurrence, on pourrait dire ça comme ça, des clients d'un certain logiciel, c'est un fléau qui affecte beaucoup trop de propriétaires de ces entreprises-là et un fléau qui est peut-être malheureusement négligé?
Je pense que c'est un des problèmes. Je pense que beaucoup de gens pensent à la croissance à tout prix au lieu de penser à la croissance au bon prix. Et je pense que au fil des dernières années, avec les taux d'intérêt, avec tout l'argent qui est rentré dans le système, beaucoup de gens ont perdu le respect pour le capital. Right? Beaucoup de gens se disaient, ben regarde, si je brûle 1 million, ben il y en aura un autre l'année prochaine parce qu'il y a 50 personnes qui sont prêtes à me le donner. Mais c'est dans des temps où le capital n'est pas disponible, c'est là que ça devient beaucoup, beaucoup, beaucoup plus difficile. Puis c'est là qu'on réalise que c'est pas vrai qu'aller chercher ces nouveaux clients, c'est nécessairement profitable.
Exactement. Et on est dans un environnement comme ça en ce moment. L'environnement économique qui est beaucoup plus propice à des organisations comme la vôtre, qui vous faites des acquisitions d'organisations technologiques que j'imagine profitables, plus stables, comparativement à cette vague qu'on a pu voir dans les 5-6 dernières années d'investissement, d'injection de capital à tout prix pour cette prise de part de marché. On dirait que le marché tourne un petit peu cette année.
Tu me demandes, honnêtement, je trouve que le marché a pas assez tourné.
Pas encore.
Pas encore. Mais on dirait que oui, il y a un début de tour passe, mais pas encore. Puis je pense pas qu'il va tourner au maximum non plus, parce que il y a des compagnies qui sont en forte croissance qui méritent du capital, qui sont très très bonnes. C'est pas comme si il faut dénigrer ces compagnies-là. Juste un petit à côté sur ce que tu as dit. Nous, la profitabilité de l'entreprise, quand on l'achète, on s'en fout complètement. D'ailleurs, si on regarde, les entreprises qu'on a achetées, en moyenne, ne sont pas profitables. Mais on les rend profitables au fil du temps. Si on regarde le portefeuille d'actifs qu'on a présentement, on a des compagnies qui ne sont pas profitables. Mais ce sont des compagnies qui ont une croissance qui justifie cette non-profitabilité ou cette perte, si on veut.
Je comprends.
Donc, pour nous, c'est pas nécessairement important que la compagnie soit profitable. Ce qui est important, c'est qu'elle puisse le devenir. Et que, comme je disais un peu plus tôt, ce soit un choix pour l'entreprise et non pas une obligation.
Donc, vous regardez les actifs. Vous faites une bonne analyse des actifs actuels pour voir si ces actifs-là sont une fondation intéressante pour le futur et par la suite, vous allez de l'avant ou non avec l'entreprise. Et parlons un petit peu de ces entreprises, de ces analyses que vous faites des différents logiciels. Je pense que vous avez une des plus grandes équipes en fusion et acquisition à Montréal qui fait du développement constamment. Peux-tu nous parler un petit peu de la grosseur de cette équipe-là et des processus? Parce que c'est suivi à la lettre et vous avez quasiment des équations mathématiques qui vont être capables de vous dire combien d'organisations vous allez être capable de signer cette année.
Définitivement. Puis cette organisation, c'est notre fierté. Les gens qui travaillent chez nous, en général, c'est notre fierté, puis il n'y a pas de valse sauce sans eux. Et en M&A, en plus, à Montréal, je te dirais que c'est notre château fort, puis on est très, très fiers de cette année. Donc, comme tu l'as dit, je pense que c'est une des plus grosses équipes à Montréal. On a à peu près une quarantaine d'individus ici, puis une dizaine autour du monde. Il y a en effet un processus très, très mathématique, parce que, comme on le dit souvent ici, we're playing a volume game, right? So, le plus d'entreprises on arrive à contacter, le plus de discussions on a avec les entreprises, la corrélation est à 100% avec le nombre de deals qu'on va faire, right? So, si je contacte 100 entreprises par semaine, je peux te dire exactement combien d'entreprises je vais acheter durant l'année, plus ou moins une entreprise. Si j'en contacte 500, mais ce chiffre est juste 5 fois plus élevé, right? Donc, le processus est quand même assez simple à décrire, mais difficile à exécuter. Donc, on a des gens dont leur job est de trouver ces entreprises à travers des listes, à travers des sites web, à travers LinkedIn, à travers des conférences, à travers des brokers, à travers n'importe quoi. Right? Et leur job est de trouver ces entreprises et les contacter. Une fois les contacts établis, leur job est de leur parler de vive voix, que ce soit en personne ou au téléphone, et d'établir un lien un lien de confiance, mais surtout d'honnêteté. Voici ce qu'on cherche, dites-nous qui vous êtes. Right? Pour pas perdre de temps de qui que ce soit, parce que on pourrait perdre beaucoup de temps à tourner en rond et tout ça. Une fois ce lien établi, on reçoit de l'information de l'entreprise et on a un processus qui nous permet d'évaluer l'entreprise quand même rapidement. Assumant qu'on a l'information et tout, ça nous prend entre 1 à 2 semaines pour formuler une offre ou une valuation pour l'entreprise.
Une lettre d'intention.
Une lettre d'intention, exactement. Et si cette lettre d'intention est acceptée par l'entrepreneur, ensuite, ça rentre en due diligence. Donc, l'équipe de due diligence, leur job, fondamentalement, c'est de me convaincre de ne pas faire de deal. Donc, le gars au début est comme, all right, moi, je veux faire le deal. Le gars, il a accepté mon offre. Moi, je suis comme, OK, c'est bon, on est prêt à faire cette offre-là. Le gars de Dirzin, sa job, c'est de regarder partout dans l'entreprise pour trouver toutes les raisons pour lesquelles on ne devrait pas faire ce deal. Si jamais il revient bredouille et qu'on veut faire le deal, ça passe au niveau légal et on finit par closer le deal. On fait cette année, on devrait faire entre 18 et 20 acquisitions. Puis chacune d'entre elles a suivi ce processus-là. On a contacté l'entreprise, ils ont accepté notre offre, on a fait du diligence, on a closé le deal.
Et toi, juste pour être certain, Joe, t'as carte blanche à savoir si oui ou non tu passes à l'action. C'est toi qui prends les décisions finales ici, là.
Oui, mais il y a personne à Valsoft qui a ce genre de mentalité-là. Il n'y a pas un deal à Valsoft qui close sans qu'une vingtaine de personnes soient au courant du deal. Puis on a un comité d'investissement entre Tom, Steph, moi et une autre personne, une fois de temps en temps, qui s'assoit, qui regarde le deal ensemble. On prend, même si c'est une petite transaction, on prend pas ces choses-là à la légère parce que notre réputation dans le marché est très, très importante. Donc, on veut s'assurer d'avoir toute l'information nécessaire pour bien faire ce genre de trucs-là.
Je comprends très bien. Donc, on fait ça simple pour les gens qui nous écoutent aujourd'hui. Des gens qui font des recherches pour des organisations qui pourraient être intéressantes pour Valsoft. Par la suite, des équipes qui font de la prospection pour discuter avec ces entreprises-là. Et juste pour être certain, quand vous discutez avec ces entreprises-là, vous tournez pas autour du pot, là. Vous leur dites directement que vous êtes en processus pour faire des acquisitions. On n'essaie pas de passer par quatre chemins ici, là.
Non, le email qu'on envoie à ces gens-là, c'est « Nous sommes Valsoft, nous cherchons à acquérir des compagnies de software. Si vous êtes intéressé, dites-nous-le. » Donc, il y a personne qui qui acceptent d'aller au téléphone avec nous et qui pensent qu'on est là pour discuter de la game de hockey d'heure.
Je comprends très bien. Donc, par la suite, des appels qui vont se faire, une analyse, des lettres d'intention, des transactions qui vont se terminer. Vous faites entre 10 et 20 transactions à l'année, comme tu l'as mentionné. Maintenant, bon, j'ai une question pour toi et je suis à peu près certain que les gens qui nous écoutent aujourd'hui ont la même question. C'est beau tout ça. Je comprends que les fondateurs ont fait de l'argent peut-être au début de leur carrière. Ils peuvent le réinvestir, mais à un certain point, est-ce qu'on a des fonds qui sont quasiment illimités? Est-ce que vous êtes capable d'aller acquérir autant d'entreprises que vous le voulez? Ou peut-être que vous êtes allé chercher un fonds externe qui vous a donné un petit coup de main? Parce que je pense qu'il y a quelque chose qui s'est tramé dans ces eaux-là dernièrement. Là.
Fait que oui à toutes ces questions. À part le fonds illimité, ça c'est il y a toujours une limite. Mais en gros, à la taille de l'entreprise qu'on est présentement, notre plus grosse source de capital pour nos acquisitions, c'est la profitabilité de nos entreprises.
Ok.
Right? Donc, si on regarde ça simplement, mon budget pour des acquisitions l'année prochaine, c'est ma profitabilité l'année prochaine plus la dette plus si j'ai besoin d'une injection de capital, soit des fondateurs, soit de Viking ou de ou si j'en ai besoin. Par contre, ça fait très longtemps qu'on n'a pas eu besoin de ce genre d'injection, mais la profitabilité de ces entreprises-là, la profitabilité de Vansport, c'est finance en majeure partie nos acquisitions dans le futur. On a aussi le luxe d'avoir des partenaires au niveau crédit qui comprennent notre business et qui nous supportent. Je sais pas si je peux les nommer ou non sur le podcast, mais ce sont deux banques canadiennes qui sont à nos côtés depuis le début, puis qui sans leur support.
Ben, ça, si t'es à l'aise, tu peux les nommer.
Ouais, bien sûr, c'est TD National. Récemment, il y a à peu près 8 mois maintenant, on a accueilli dans notre famille Viking Global, qui est un fonds de private equity à New York. Qui détient une minorité de Vansport et qui a investi pour le très long terme avec nous pour nous aider à continuer à exécuter dans cette stratégie-là. Viking est un investisseur, comme je l'ai dit, minoritaire, qui nous fait confiance et qui voit énormément de potentiel dans notre stratégie. Au besoin, il serait là pour nous supporter dans le futur. Par contre, notre modèle d'affaires ne requiert pas d'autres injections de capital.
À tous les auditeurs du podcast Hypercroissance, j'ai une question pour vous aujourd'hui. Êtes-vous satisfait de votre marketing numérique en 2022? Avez-vous été capable d'aller chercher cette croissance, voire même cette hypercroissance depuis le début de l'année? Si les choses n'avancent pas à la vitesse dont vous le voulez, sachez que J7 Media veut vous aider. En plus d'être une agence ayant géré 100 millions de dollars en publicité Facebook depuis sa fondation, le groupe J7 possède maintenant une offre beaucoup plus globale qu'avant. Notre équipe s'est agrandie et offre désormais des services en publicité Google afin d'intégrer une approche multicanale à notre stratégie. Un département email marketing possédant la certification Platinum offerte aux agences premium chez Klaviyo. Un studio vidéo orienté sur la création de contenu natif et plusieurs autres services vous permettant d'accélérer votre croissance. Donc, si vous désirez un nouveau partenaire pour terminer l'année en force, on vous invite à vous rendre au www.j7media.com/hypercroissance. Donc, je le répète, le chiffre 7, media.com/hypercroissance, ou encore écrivez-moi en privé sur LinkedIn. Je me ferai le plaisir de personnellement discuter avec vous afin de savoir comment on peut vous bâtir sur mesure une analyse de vos efforts actuels. De retour à l'épisode en cours. C'est tout à votre honneur. Si vous êtes capable de financer votre croissance via la profitabilité des entreprises déjà existantes dans votre groupe, c'est tout à votre honneur parce qu'encore une fois, on le répète, pour notre audience aujourd'hui, une situation économique plus complexe en ce moment, ça veut dire que vous êtes capable d'assurer votre pérennité à même vos fonds propres. Et encore une fois, je le répète, c'est tout à votre honneur. Bon, on a parlé un petit peu d'acquisition, on a parlé de processus de détection d'entreprises qui pourraient être intéressantes pour vous. Qu'en est-il maintenant des opérations, ou plutôt même de l'intégration de ces organisations-là à l'intérieur de votre portfolio? Est-ce qu'ici, vous avez encore un processus autant sophistiqué que le processus que vous avez pour le développement et pour l'acquisition de ces entreprises?
Donc là, on rentre dans la partie plus plate. notre processus de M&A a l'air complexe et c'est un art beaucoup plus qu'une science mais nos opérations sont d'une sophistication. Quand je pense à mon partner Mike qui s'occupe de ça à l'interne, c'est fou ce qu'ils font. Right? Eux, leur job, c'est d'accueillir dans notre famille ces entreprises-là et de balancer une injection de notre DNA de Valsoft dans leur entreprise sans enlever leur côté entrepreneurial. Right? Donc, eux, ils ont ce jeu à jouer, ce stratagème où ils doivent, un, comprendre la culture de l'entreprise qu'on vient d'acheter. Et évidemment, pas une surprise pour eux quand on achète une business, ils sont inclus dans les discussions et tout, quelques mois avant la finalisation de la transaction. Donc, comprendre la culture de l'entreprise, comprendre ce que cette business a besoin pour bien croître dans Valsoft, et ensuite donner à cette entreprise-là les outils nécessaires pour y arriver. Ouais. Ce que Mike et son équipe ne feront jamais, c'est ou ce qu'ils essayent de ne pas faire, c'est de rentrer dans le business et de tout s'embarder, puis de tout changer. Il n'y a pas d'intégration complète avec des entreprises à Valsoft. Ces entreprises-là, vu qu'elles sont très mises dans ce qu'elles font, on essaie de les garder très séparées, très très décentralisées. Donc, ce que Mike va faire, c'est leur donner des outils. Par exemple, voici le genre de data dont on a besoin au niveau des ventes. Donc, quand vous avez un vendeur, ben, demandez-lui ce genre de questions-là, comme ça vous savez s'il est bon ou non. Donnez-moi le nombre d'appels qu'on reçoit par semaine, comme ça on peut vous dire combien de customer service vous avez besoin, parce que quand on a parlé à vos clients, ils étaient pas satisfaits du nombre du temps que ça prend à la réponse. Donc, c'est ce genre de choses-là qui sont très dans le détail, et ils doivent rester très, très élevés, et c'est très tentant d'aller et faire les choses, mais il faut plutôt éduquer les gens sur comment le faire pour demeurer décentralisé.
Donc, vous leur laissez la possibilité d'opérer leur organisation, mais j'imagine tout de même que vous venez leur donner une certaine expertise. Est-ce que tu peux nous dire un petit peu habituellement quel est les gros changements que vous voyez, peut-être pas le mot changement n'est peut-être pas le bon, mais les grosses améliorations que vous voyez sur ces organisations-là? Est-ce qu'habituellement c'est un enjeu davantage de marketing? Est-ce qu'habituellement c'est un enjeu davantage peut-être de vente, d'opération? Où la sauce Valsoft s'intègre le plus souvent dans ses acquisitions?
C'est presque du cas par cas, mais il y a des tendances, right? Les tendances sont les suivantes. La plupart des entrepreneurs de qui on achète des entreprises opèrent leur business dans une position moins forte que la nôtre. Right? C'est en général un ingénieur ou un entrepreneur qui a commencé sa business il y a 20-30 ans, puis que toute sa vie professionnelle a été passée à bâtir cette entreprise-là, et en général, ça représente 100% de son actif. Right? Ce qui fait que si jamais quelque chose se passe mal dans cette entreprise-là, ben c'est pas mal toute sa vie qui est embardée et tout ça. Nous, ça fait partie de la portefeuille. Right? On a une approche beaucoup plus portefeuille, et on a une approche qui est beaucoup plus détachée. Ça fait pas 30 ans qu'on détient cette entreprise. Right? La réponse à la question « Pourquoi on fait ça? » Si la réponse c'est « Parce qu'on l'a toujours fait comme ça », ben tu sais, c'est pas vrai qu'on l'a toujours fait comme ça. Ça fait 2 semaines qu'on détient l'entreprise. Fait que, on peut poser ce genre de questions-là pour faire ce genre de choses. Ce qui fait que la plupart du temps, on va voir des changements au niveau de comment les clients vont percevoir leur vendeur. Right? Donc, avant, c'est Monsieur X entrepreneur ou Madame X entrepreneur. Maintenant, c'est l'organisation Valsoft qui a des moyens, comme tu l'as dit, presque illimités. Donc, si jamais avant, je demandais que le software commence à faire ça, ben l'entrepreneur n'avait pas nécessairement les moyens de le faire. Maintenant, on a les moyens de le faire, right? Ce qui fait qu'en général, ce qu'on va voir, c'est que l'entreprise, dans les 2 premières années après l'acquisition, va croître à un rythme beaucoup plus élevé que les 2 années avant l'acquisition. Parce que Valsoft va venir et revigorer l'esprit entrepreneurial dans l'entreprise. On va commencer à accepter des projets qu'on n'aurait autrement pas acceptés. On va commencer à investir dans des situations où il y a des ventes qui sont potentielles et tout. Et ensuite, on va commencer à avoir une entreprise qui est beaucoup plus efficace au niveau R&D, recherche et développement. Right? Puis l'efficacité, là, n'est pas nécessairement au niveau monétaire, mais elle est plus au niveau de combien on peut faire évoluer le produit rapidement. Donc, simplement dit, si jamais on a besoin de 5 nouveaux développeurs dans une business au milieu du New Hampshire, parce que ça risque de prendre un an à les trouver. Par contre, à Valsoft, on a un réseau de, je sais pas, 500 développeurs qu'on peut aller chercher en Inde, qu'on peut aller chercher en Ukraine, qu'on peut aller chercher au Liban, qu'on peut aller chercher en Égypte, qui peuvent être immédiatement placés sur un projet, qui peut faire évoluer le produit plus rapidement que d'autres. Donc, c'est pas des changements brusques, ça c'est sûr et certain, mais c'est des changements qui sont planifiés et exécutés sur un timeline et qui prennent le temps que ça prend. Mais bon, c'est un petit peu ça le genre de changement qu'on voit dans l'entreprise.
Fascinant. On avait une discussion, Joe, la semaine dernière ensemble, où je t'ai posé une question en te disant, bon, avec toutes ces entreprises-là que vous avez présentement dans votre portfolio, ça vous donne pas envie d'en fusionner certaines d'entre elles parce que peut-être qu'il pourrait y avoir une synergie intéressante qui pourrait pousser les organisations à grandir encore plus vite. Et la réponse que tu m'as donnée m'a fait grandement rire. Donc, j'aimerais que tu répondes à cette question-là parce qu'au final, vous ne faites pas beaucoup de fusions à l'intérieur même des organisations que vous achetez.
Ouais. Écoute, on a dû nous tordre le bras, puis ça a fait très, très mal pour qu'on en fasse trois. Et déjà, on est inconfortable d'en avoir fait autant que ça parce que c'est quelque chose qu'on résiste constamment. La raison est très, très simple, c'est que la seconde où on fusionne ces entreprises-là, évidemment, il y a des synergies qui peuvent potentiellement amener plus de profits, mais tu perds immédiatement l'esprit entrepreneurial que tu as acquis, right? Les gens perdent l'identité de la business pour laquelle il ou elle travaille. Et éventuellement, ça se transmet vers les clients. Et le peu de profit que tu as réussi à générer avec des synergies dans la première, deuxième année, tu vas commencer à les perdre parce que les clients vont perdre ce genre d'attachement qu'ils avaient quand ils ont accepté de prendre ce software-là il y a 5 ans, 10 ans, 15 ans et tout. Donc, c'est quelque chose qu'on résiste même à l'interne. Même quand on fait une acquisition, certains des opérateurs sont comme « great, fusionnons-les ». Mais un, les business qu'on achète sont tellement niches que déjà, que les deux soient dans la même niche, c'est exceptionnellement rare. Et deuxièmement, pour qu'on prenne le risque de les fusionner pour un petit profit, le risque n'en vaut tout simplement la chandelle sur le long terme. Puis on préfère essayer de les croître organiquement ou inorganiquement, indépendamment d'entre elles, que de les fusionner pour les faire croître. Mmh.
Tu as utilisé le terme long terme. À quoi que ça ressemble pour vous? Parce que, bon, on entend souvent le cliché en technologie. On bâtit l'organisation, on fait une sortie de plusieurs millions de dollars et peut-être par la suite, on va essayer de le refaire. Bon, bien entendu, ça, c'est pour les organisations qui ont eu un certain succès. C'est pas toutes les entreprises à qui ça va arriver. Mais tu l'as mentionné plus tôt, vous voulez les garder. Est-ce que vous voulez les garder ad vitam aeternam? Est-ce que vous avez des plans de peut-être en vendre certaines dans les prochaines années?
Aucun plan d'en vendre certaines dans les prochaines années. Idéalement, on les garde toutes et elles survivent toutes ad vitam aeternam. Parce que la job la plus difficile qu'on a, c'est de les acheter. Et si jamais on avait plus de capital, disons que quelqu'un vient et veut m'acheter une de mes business pour 100 millions de dollars, ben, ce serait difficile pour moi de trouver 100 millions de dollars de business à acheter. Qui fait que ces entreprises-là, de la façon qu'on les sélectionne, et on est très, très discipliné quand ça vient à ça, ce sont des entreprises qu'on voit survivre pour 20, 30, 40, 50 ans. Je peux te donner un exemple, si tu veux, pour illustrer ça. Il y a à peu près 4 ans, j'ai rencontré une business qui fait tous les critères que je voudrais. Je ne perds jamais un client, traîner son juste parfait. Puis, cette business-là, ce qu'elle faisait, c'est qu'elle faisait la gestion de taxis quelque part en Europe. Hein? Et elle avait tous les critères que je voulais, à part le fait que je ne pense pas que les taxis vont exister dans 10-15 ans. Right? Donc, malgré le fait qu'on avait le bon prix pour, puis que c'était une bonne business et tout, on voyait un scénario où, dans une quinzaine d'années, à moins d'un revirement de situation auquel on s'attendrait pas, cette business-là n'existerait plus, qui fait qu'on n'a pas fait cette acquisition. Maintenant, est-ce que 100% des business qu'on achète vont nécessairement survivre des décennies? Non, on n'est pas si bon dans ce qu'on fait. Puis, il y a certaines entreprises qui ne méritent pas de survivre, tout simplement. Mais pour l'instant, toutes les business qu'on a achetées font très bien, puis on envisage qu'elles demeureront dans notre portefeuille pour des décennies.
Vous avez une bonne discipline, une très bonne discipline, parce que ça peut être, des fois, j'imagine, tentant de voir des organisations qui fonctionnent bien pour le moment, risquent de bien fonctionner encore pour 5-6 ans, mais vous avez, au plus profond de votre tête, des doutes sur le très, très long terme. Donc, chapeau d'avoir cette discipline. Et peut-être avant de terminer sur des questions un petit peu plus personnelles, j'aimerais savoir, Joe, tu l'as dit un petit peu plus tôt, il y a un fonds Vikings qui est venu injecter du capital il y a 8 mois de ça maintenant contre une participation minoritaire dans l'entreprise. Est-ce que c'est le plan, et là, on l'a bien compris, vous voulez pas vendre des entreprises, mais est-ce que c'est le plan peut-être d'aller chercher d'autres investisseurs dans le futur pour aller augmenter la vélocité du fonds d'investissement que vous avez à l'heure actuelle pour faire des acquisitions encore plus rapides?
Je ne pense pas qu'on serait ouvert, on serait pas ouvert à d'autres investissements. Par contre, on travaille sur des plans pour amener la compagnie publique éventuellement. Notre timeline est vraiment peu fluctué, dépendant un peu de nos besoins et tout. Mais on envisage que Valstorf devrait être une compagnie publique dans les 2 à 3 prochaines années. Et la raison est bien simple. C'est pas nécessairement juste une question de capital puis de croissance et tout. C'est que Valstorf, c'est une compagnie qui mérite d'être publique. Il y a des avantages inhérents au modèle d'affaires en étant public. C'est que les gens qui vendent à Valstorf verraient un petit peu le succès de l'entreprise. C'est beaucoup plus public que juste quelques gars et quelques femmes ici à Montréal, right? Donc, c'est pour ça qu'on s'enligne vers ça. Il n'y a pas de presse, il n'y a pas de besoin nécessairement, mais on fait toutes les étapes nécessaires pour qu'éventuellement, dans le sort, devienne une entreprise publique.
Intéressant. Question plus personnelle, Joe, maintenant, tu es dans le milieu des fusions-acquisitions depuis un certain temps maintenant. Comment tu t'éduques? Comment tu restes à l'affût des tendances, des évaluations sur le marché, des valorisations d'entreprises? On le sait, ça a beaucoup changé dans les derniers mois. Peut-être moins dans votre catégorie, sachant que vous restez dans quelque chose qui n'a pas tellement de volatilité. Vous visez des entreprises stables, mais tout de même, faut s'éduquer, faut rester à l'affût des dernières tendances. Comment tu t'éduques? Qu'est-ce que c'est par des livres? Comment tu te gardes à jour de tout ce qui se déroule?
En gros, je suis un junkie d'information.
Ouais.
c'est pas rare que tu vas me trouver à 4h30 du matin en train de lire un article, en train d'écouter un podcast, en train de scroll Twitter, en train de parler à quelqu'un en Australie. C'est très, très, très important pour moi et pour mon équipe et pour Vincent d'être ouvert pour recevoir cette information-là. Au niveau personnel, j'ai 3 enfants. Mon temps est assez limité pour m'asseoir et lire un livre en paix. C'est comme, on dirait que la mission de ces 3 enfants-là, c'est de pas me donner 5 minutes pour faire ça. Fait que, souvent, je vais soit écouter un podcast, soit lire des plus petits articles, soit, honnêtement, des fois, je vais profiter du vol vers Toronto, du vol vers New York ou du vol vers l'Europe pour un petit peu me remettre à jour. Mais on essaye d'être le plus présent et le plus disponible possible et d'avoir le plus d'informations possible avec le plus de monde possible dans l'industrie pour voir un petit peu comment on se situe puis qu'est-ce qui se passe dans l'industrie.
Et t'as parlé de podcasts, lesquels que tu écoutes?
Je suis un gros, gros fan de sport. Donc, en général, c'est des podcasts de sport. Mais j'essaie, à chacun de sport que j'écoute, j'essaie d'en écouter 2 de business.
Non.
Des fois, c'est plus des sujets plutôt que, tu sais, quelqu'un va me dire, ah, c'est un très bon podcast sur ce sujet-là, puis je vais l'écouter. Mais il y a 2 podcasts technologiques que j'écoute presque religieusement. Il y en a qui s'appelle Business Wars, qui parle beaucoup de business, puis c'est bien que ce soit pas nécessairement seulement software ou seulement technologique, ça t'en apprend beaucoup sur beaucoup d'industries. Et il y a un podcast que j'écoute peut-être moins religieusement qui s'appelle le All In Podcast, qui est 4 investisseurs très, très, très successful qui ont commencé ça durant la pandémie et qui parlent un petit peu d'actualité de tout et de rien, mais sur un focus plutôt tech. Ça, je l'écoute une fois de temps en temps.
Intéressant. Routine, tu dis que tu te lèves très tôt des fois pour rester à l'affût des dernières informations qui pourraient sortir dans le marché. À quoi que ça ressemble, la routine avant, pendant et après le travail de Joe Coubien?
Ma carrière m'a toujours amené vers des jobs où je devais être au bureau très tôt. Que ce soit quand j'étais en investment banking, en gestion de portefeuille et tout. Ce qui fait que ma routine idéale, c'est de me réveiller autour de 5h, 5h30, faire ce que j'ai à faire jusqu'à ce que les enfants se réveillent. le matin avec les trois enfants, j'essaie d'aider le plus que je peux et tout. Si je peux, j'aide avec les enfants, j'essaie d'en amener au moins un à l'école, sinon deux. Puis j'aime être au bureau assis à travailler jusqu'à 4 heures. Après 4 heures, c'est là que je cédule le plus possible mes rencontres hors du bureau et tout ce genre de choses-là. Mais j'aime être au bureau, disons, à 7 heures, 7 heures et quart, jusqu'à 4, 4 et demi. Puis ensuite, j'aime me planifier une heure ou deux, plus leisure, plus de rencontres avec mon équipe dans l'après-midi, ce genre de choses.
Intéressant. Joe, bon, si on veut en apprendre plus sur Valsoft, s'il y a des gens qui nous écoutent aujourd'hui, qui ont une entreprise technologique bien nichée et qui voudraient peut-être joindre votre famille, où est-ce qu'on peut en apprendre plus sur vous? C'est quoi l'endroit le plus simple pour vous rejoindre?
Site web, je suis sûr que mes coordonnées vont être sur le podcast, mon email, quoi que ce soit. Mais je suis sur le site web, on peut toujours me rejoindre là. Puis ça nous fait toujours, toujours plaisir. Une de nos plus grandes déceptions, c'est qu'on a acquéri un total de une business au Québec, malgré le fait qu'on est présent ici, on est à peu près 250 personnes ici à Ville-Saint-Laurent. S'il y a quelqu'un au Québec qui cherche à vendre sa business de software, on va payer plus cher qu'on paye normalement parce que c'est une de nos plus grandes déceptions puis on comprend pas pourquoi.
OK. Ben, le message est lancé. Donc, pour les gens aujourd'hui qui nous écoutent, et comme tu l'as dit, votre modèle est intéressant parce que vous venez aider ces propriétaires d'entreprises-là à grandir encore plus vite. Donc, c'est vous leur laisser cette opportunité, cette indépendance-là à un certain point de continuer à croître l'organisation. Donc, s'il y a des gens pour qui ça peut résonner aujourd'hui, le message de Joe, n'hésitez pas, on va mettre ses coordonnées dans les notes de l'épisode. Joe Coubier, merci infiniment d'avoir pris le temps avec nous aujourd'hui. Je suis convaincu que tu es chargé en ce moment à travers plusieurs dossiers d'acquisition. Donc, on apprécie grandement que tu aies pris le temps avec nous aujourd'hui. Et pour les gens qui nous écoutent, on se dit à bientôt pour un prochain épisode de Hypercroissance.
Merci encore d'avoir été avec nous aujourd'hui. Si l'épisode vous a plu, ce serait très apprécié si vous pouviez partager le podcast sur les médias sociaux afin de faire connaître le balado à un maximum de gens d'affaires possible. Également, je vous invite à m'ajouter sur LinkedIn. Comme je vous le dis à chaque semaine, j'adore discuter avec vous. Et plus souvent qu'autrement, vous me donnez de super idées d'invités pour le podcast. Sur ce, on se dit à bientôt pour un prochain épisode de Hypercroissance.